Le flash de la FNAT, Association des accidentés de la vie, avec Nadine et Audrey. L'accident de travail ou la maladie professionnelle, quelle responsabilité pour l'employeur ? Quelle peut être la responsabilité de l'employeur dans la survenue d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ?
Alors, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employé est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail ou les maladies professionnelles. Et le manquement à cette obligation revêt le caractère de la faute, ce qu'on appelle la faute inexcusable. Lorsque le salarié peut démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que l'employeur n'a pas pris les précautions nécessaires pour l'en préserver. En quelque sorte, l'employeur est tenu de laisser sortir son salarié le soir dans le même état où il est entré le matin.
Cette obligation de résultat est donc contraire à l'obligation de moyens. Ça veut dire que si le salarié arrive à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger s'il avait pris les mesures nécessaires, notamment l'évaluation du poste de travail, l'évaluation des gestes répétés, l'évaluation du risque du poste auquel le salarié est exposé, et si l'accident du travail est arrivé ou la maladie professionnelle est alors reconnue, on peut considérer que l'obligation de sécurité de résultat qui est imposée à l'employeur et de par l'apparition de l'accident du travail, malheureusement non respectée puisque les mesures nécessaires n'ont pas été prises, mesures qui auraient dû éviter cet accident.
Alors c'est très technique, je peux donner un petit exemple, le salarié couvreur qui est sur un toit, l'employeur met à sa disposition tous les harnais et tout ce qu'il faut, le salarié ne s'attache pas et tombe du toit. L'employeur n'est pas tenu simplement de mettre à la disposition du salarié ses harnais et tout le matériel, il doit s'assurer que le salarié l'a bien mis et bien monté dans les conditions de sécurité dans lesquelles il aurait dû monter. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément une faute délictuelle de l'employeur.
La conscience du danger, elle est caractérisée notamment par l'ensemble des textes qui ressortent du Code du travail et que l'employeur est censé connaître.
Alors, il convient également de préciser que cette obligation de sécurité est renforcée lorsqu'il s'agit de salariés intérimaires ou lorsqu'il peut être démontré que le salarié n'a pas reçu toutes les formations nécessaires à son poste et que ce poste revêtait une particulière dangerosité.
Également, l'obligation, la faute inexcusable est présumée dès lors que le CHSCT avait déjà attiré l'employeur sur le risque et que le risque est arrivé par la suite malgré cette information du CHSCT.
Quel délai a le salarié pour engager une procédure à l'encontre de son employeur ?
Alors, le salarié bénéficie d'un délai de 2 ans après la fin des indemnités journalières. Attention, c'est les premières indemnités journalières, parce que s'il y a une aggravation ou quoi, ça ne fait pas continuer à courir le délai. Donc 2 ans après la fin des indemnités journalières, ou alors après un jugement de condamnation ou de non-lieu de l'employeur devant le tribunal correctionnel.
Ou également 2 ans après une reconnaissance de maladie professionnelle, puisque souvent la reconnaissance de la maladie professionnelle n'intervient pas le jour de l'apparition de cette maladie. Également, il faut quand même rappeler que 2 ans après la fin d'indemnité journalière, ce n'est pas 2 ans après la date de consolidation, puisque certaines personnes reprennent leur activité professionnelle alors même que l'état n'est pas consolidé et justifie des soins. Donc c'est non pas 2 ans à partir du moment où vous percevez l'indemnisation de vos séquelles par la CPAM, mais bien 2 ans après la fin de votre arrêt de travail.
Quelles sont les indemnisations auxquelles le salarié peut prétendre ?
Alors, il s'agit d'indemnisation des préjudices provisoires, c'est-à-dire l'incapacité, la période d'arrêt de travail, la douleur pendant toute cette période, l'aide à la personne à laquelle peut avoir besoin, avoir recours donc le salarié, les préjudices esthétiques, et ensuite donc les préjudices définitifs après consolidation qui sont complémentaires donc à l'indemnisation forfaitaire versée par la Sécurité sociale.
Dans ces préjudices, on trouve le préjudice d'agrément, donc c'est toutes les gênes qui sont occasionnées, l'impossibilité de continuer les activités de loisirs. Il y a également la perte de possibilité de promotion professionnelle et le doublement de l'indemnisation versée par la CPAM, soit la rente, soit le capital. Étant précisé qu'aujourd'hui, l'incidence professionnelle, la perte d'emploi, la reconversion professionnelle n'est pas indemnisable comme un préjudice à proprement parler, mais la rente l'indemnise de ce fait.
Voilà, donc ce préjudice qui est qualifié de perte de possibilité de promotion professionnelle est bien différent du préjudice d'incidence professionnelle. Par ailleurs, donc, à la suite de récents arrêts de la Cour de cassation, une possibilité est désormais ouverte aux salariés, notamment victimes de l'amiante, pour lesquels la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, de pouvoir prétendre à un préjudice qui se qualifie de préjudice d'anxiété spécifique. Il est également important de savoir qu'à la suite d'un licenciement pour inaptitude après une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut solliciter devant la juridiction prud'homale un préjudice complémentaire consistant en la perte de son emploi du fait de la faute inexcusable de l'employeur.
C'était le flash de la FNAT, Association des accidentés de la vie.